and the wind's 120 knots to the west.
Radio X Files avec Christian Page et Camille.
Oh my God.
Radio X.
Bon début de soirée et bienvenue sur les ondes de Choix 98.1 Radio X. La nuit tombe sur Québec le vendredi de façon différente avec l'émission des Radio X Files. Édition particulière ce soir, j'ai l'honneur d'animer et de prendre la barre de l'émission pour la soirée jusqu'à 20h. Et je demande la participation de nos auditeurs aussi par texto au 418-670-9098. Parce que ce soir, il sera question du dernier livre, le tout dernier livre encore tout chaud dans mes mains de M. Christian Page, « Les grandes fraudes du paranormal, imposture, arnaque, canular, 20 affaires dignes d'Hollywood ». Et nous aurons une copie à faire tirer aux auditeurs, aux plus fidèles de la première heure des émissions des Radio X-Files. Mais d'abord, je vous présente mon invité, celui qui n'est surtout pas d'habitude à la tête de cette émission-là, mon cher Christian. Tu as les pieds sur le pouf ce soir. Comment te sens-tu?
Je me sens très bien.
T'as passé une belle semaine?
Oui, une bonne semaine. C'est toujours très occupé hein, dans les derniers jours qui précèdent l'Halloween. Là, il y a toujours une espèce de frénésie. Les gens veulent avoir un peu partout en région. J'ai participé à plein d'émissions. Les gens veulent avoir leur petite histoire de fantôme ou de macabre dans leur secteur. Donc, vivement que l'Halloween soit derrière nous.
Derrière, ça dépend. On commence les festivités de l'Halloween en fin de semaine. Ouais. C'est mardi prochain. Mais ouais. Pour toi, les demandes de booking, bon, se terminent probablement cette semaine.
Oui, donc, après l'Halloween, on dirait que là, on tombe dans une... Bon, l'histoire est derrière moi après ça. Et puis là, je peux me consacrer davantage à mes activités. Là, et on, il va y avoir au mois de novembre le Salon du Livre de Montréal. Et les projets, bien sûr, que je continue d'entretenir, là, livre, radio et tout le reste.
Où tu pourras partir justement en tournée avec ton tout dernier livre. Et celui-là t'a pris combien de temps à écrire?
C'est amusant parce que, ben, écoute, je dois t'avouer que j'aime beaucoup la formule qu'on fait ce soir, hein, parce que c'est d'habitude, c'est moi qui interroge les gens ou c'est moi qui parle parce que, je livre du matériel et là, ben, on fait une vision un peu plus intimiste et ça, je trouve que ça me plaît beaucoup parce que ce livre-là, c'est mon bébé, hein, comme tu
oui.
le sais. Et à ta question, combien de temps ai-je mis pour écrire le livre? Je te répondrai, grosso modo, l'écriture a nécessité 6 mois et la recherche, 45 ans.
Oui,
parce que c'est toujours un peu ça. Quand tu as lu le livre, il y a des histoires qui soulignent un peu tout mon trajet dans l'univers du paranormal. Donc, je dis voilà telle histoire. Je me suis retrouvé par exemple en Espagne en 2005 dans une autre histoire 2012, une autre histoire 2017. Donc, on voyage un peu à travers le monde. À travers ces différents déplacements, mais on suit l'investigation que j'ai menée sur l'ensemble de ces fraudes. Faut le souligner, hein, les histoires qui sont dans ce livre-là, ce sont des histoires sur lesquelles j'ai enquêté personnellement. Ce ne sont pas des histoires là que je suis allé piger sur Internet ou des trucs comme ça ou des copier-coller de d'autres publications. C'est vraiment des investigations durant ma carrière de journaliste paranormal. Évidemment, j'ai été confronté à plein d'histoires un peu rocambolesques et certaines d'entre elles, ben, j'ai décidé de les creuser de manière plus soutenue et ça a donné cet ouvrage, Les grandes fraudes du paranormal, dont je suis très content. Et tu l'auras compris, hein, l'univers du paranormal est un univers qui est un terreau très fertile aux fraudes et aux manipulations. Et j'ai dû, mon éditeur m'a tordu le bras pour me dire qu'il faut se limiter à 20. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas éventuellement un tome 2 ou un tome 3.
C'est bien ce que je me disais, parce que tu l'as mentionné, c'est 45 ans de carrière et
voilà.
On n'a que 300 pages de ce livre-là. Mais si vous cherchez justement un ouvrage avec de la documentation, documentation. Vous êtes habitués d'entendre les émissions à la radio ici, les vendredis, anciennement sous la formule quotidienne. Christian est une mine d'or d'informations en soi. J'ose même pas imaginer les archives que tu dois avoir à la maison. Justement, entre, si on prend un cas typique ou qu'on essaie de faire une moyenne, là, quand tu enquêtes sur un sujet en particulier, que je prenne l'exemple, je sais pas moi, de la momie extraterrestre, combien de temps peut s'écouler entre le moment où tu prends connaissance de cette histoire-là et que tu viens à faire soit des voyages ou à enquêter jusqu'à en faire tes propres conclusions? Ça peut prendre combien de temps?
Je te dirais que la moyenne est à peu près de 2 ans.
OK.
Mais il y a des histoires dont j'ai enquêté pendant des années, certaines d'entre elles, puis les gens qui me suivent depuis de nombreuses années savent très bien que l'une de ces histoires-là qui m'a drainé énormément d'énergie jusqu'à ce que j'abandonne, ça a été de trouver l'identité de Jack l'Éventreur.
Oui.
Ça, pour moi, c'était une passion, une obsession, et je m'étais juré de trouver l'identité de l'assassin. Et donc, pour moi, la passion de l'Éventreur a débuté, on est aux alentours de 1987-1988. On souligne à ce moment-là le 100e anniversaire, un triste anniversaire, il faut le dire, mais le 100e anniversaire des crimes de l'Éventreur qui se sont produits à l'automne de 1888. Comme plein de gens, j'avais entendu parler de l'Éventreur comme étant un personnage, un assassin de l'époque victorienne qui avait été récupéré un peu dans le folklore, la littérature, le cinéma. Mais je m'étais jamais vraiment penché sur les crimes de l'Éventreur. Et là, comme l'occasion était bonne, on en parlait beaucoup dans les médias, c'était le 100e anniversaire, je me suis dit, ben voilà, comme journaliste, je vais en faire moi, le sujet de ma prochaine enquête, percer l'identité de l'Éventreur. Et je te dirais que je dois avoir consacré à cette histoire-là de très nombreuses années, peut-être je te dirais facilement 10 à 15 ans à l'affaire de l'Éventreur, plusieurs voyages à Londres. J'étais sans aucun doute le premier journaliste étranger à obtenir une copie intégrale des archives sur l'Éventreur que j'ai chez moi. Et malgré tout ça, à un moment donné, j'ai dû me rendre à l'évidence. Et aujourd'hui, je maintiens ce point-là. Je pense que personne ne sait qui est l'Éventreur et on ne le saura jamais. Je pense qu'aujourd'hui, on est à 100-200 livres à peu près d'écrits sur l'Éventreur. Chaque auteur a la prétention d'avoir trouvé l'identité de l'assassin. Hein. Chaque livre, c'est, on pourrait le qualifier de Jack l'Éventreur, la dernière solution, ou Jack l'Éventreur.
Une autre piste.
Enfin révélé, l'identité enfin révélée. Mais dans le fond, quand on connaît bien, quand on a une connaissance encyclopédique de ce sujet-là, comme j'ai, et je lis chacun de ces ouvrages-là, je peux facilement te souligner à gros traits des erreurs, des choses qui fonctionnent pas. Mais bon, évidemment, comme les gens n'ont pas tous cette même connaissance, ben c'est facile de favoriser un suspect en éliminant des éléments qui pourraient aller à l'encontre de cette hypothèse, et le lecteur lit l'ouvrage en se disant, ben voilà, ça tient la route. Mais quand on a une connaissance comme la mienne, et comme plein d'autres, hein, tu sais que cet univers-là, des spécialistes de l'Éventreur se définissent comme des ripérologistes.
Oh oui.
Donc les spécialistes de l'Éventreur, puis tu le sais, on en a souvent parlé, tu es toi-même allé à Londres, t'as visité les lieux où les crimes avaient été commis. Il y a des tours qui sont organisés à Londres pour amener les gens sur les lieux dans Whitechapel où les crimes ont été commis.
Et j'ai plié, Christian, je fais une parenthèse. L'an prochain, il y a des forfaits en autocar qui sont sortis pour Salem et je me suis inscrite.
C'est fantastique de visiter un lieu en suivant une allure ou une allée qui est marginale.
Si on
visite Londres, les gens vont visiter Londres. Soit on va visiter Londres, évidemment, pour la royauté. D'autres vont visiter Liverpool parce que c'est le lieu de naissance des Beatles. Mais visiter Londres sur la route de Jack l'Éventreur, c'est quand même particulier.
Visiter
la grande région de Boston et en particulier Salem et Denver, hein, la ville d'à côté qui est Denver, parce que les gens s'imaginent que la ville actuelle de Salem, c'est là où tout s'est produit, alors que c'est pas du tout ça. Hein. La ville de Salem, aujourd'hui, c'est là où les procès ont eu lieu. Mais l'enchantement, la sorcellerie, la malédiction s'est produit dans une petite ville voisine qui s'appelle Denver. C'est là que la sorcellerie a débuté. C'est là que se trouvait Samuel Parry, par exemple, le pasteur chez qui les phénomènes ont débuté. Et dans le procès des sorcières de Salem, il y avait déjà à ce moment-là Il y avait la ville de Salem, aujourd'hui, à l'époque, s'appelait, et là, je fais un petit aparté comme ça, mais on c'est peut correct. Se le permettre, on est tout près de l'Halloween.
Totalement.
Mais la ville de Salem d'aujourd'hui, à l'époque, s'appelait Salem Town. Et la ville de Denver s'appelait Salem Village.
Okay.
Et à l'époque, les deux communautés étaient, en fait, avaient été fondées par le même groupe de colons, le même groupe de Quakers. Et le groupe qui vivait dans la ville de Salem d'actuel, donc à Salem, Salem Town, ces gens-là étaient très fondamentalistes. Hein. Ces gens-là voulaient vivre en autarcie. Ces gens-là ne voulaient pas faire de trafic avec le commerce extérieur. Tout devait être, on devait être dans une société, une communauté qui était autosuffisante. Alors que les gens de Salem Village, qui étaient également des Quakers, fondamentalistes, mais ces gens-là étaient beaucoup plus libéraux, plus ouverts avec du commerce et du marchandage avec d'autres sociétés. Et donc, très rapidement, il y a une espèce d'animosité qui s'est installée entre les deux communautés. Et les gens de Salem, et comme la ville principale, la ville fondatrice était Salem Town, ben, évidemment, Salem Town avait tout le pouvoir législatif. Et eux voyaient leurs voisins de Salem Village qui faisaient trafic avec les méchants autres, d'autres obédiences.
Oh.
Ils les voyaient un peu comme sur la voie de la perversion et du diable. Alors, quand les gens à Salem Village ont commencé à manifester des troubles de comportement, quand ils ont commencé à raconter que le diable était peut-être chez eux, puis dans le cas de Salem, faut quand même le dire, hein, on est ici dans un cas historique qui est très particulier, parce que dans les autres chasses aux sorcières qui ont marqué le début de la Renaissance, le diable se manifestait par des événements d'ordre disons sociaux, hein, mais quand je dis des événements sociaux, c'était ou bien on avait une famine, ou bien on avait une sécheresse, et là ben évidemment il y avait toutes les conséquences qui étaient associées à ça, et comme on vivait dans un monde qui était très manichéen, c'était si c'est bien, c'est Dieu, si c'est mal, c'est le diable. Ben, quand il y avait une sécheresse, ou quand il y avait une inondation, ben, c'était forcément ou Dieu, ou le diable qui avait envoyé ça. Donc, c'est comme ça qu'il se manifestait. Et comme on avait une vision que si le diable, il est là, c'est parce qu'il a été invité, ben, qui invite le diable? Ben, si on se réfère aux Saintes Écritures, qui est la grande tentatrice, qui s'est laissée séduire par le diable? Ben, ce sont les femmes, hein, c'est Ève, et les femmes, ce sont tous quelque part des filles d'Ève, hein, dans cet imaginaire. Donc, si le diable, et c'est pourquoi, lorsqu'il y a eu les grands procès de sorcières en Europe, entre autres, on a parlé de, à peu près, là, entre 100 000 et 200 000 personnes qui ont été exécutées, dont 90 à 95% d'entre elles étaient des femmes. C'était principalement les femmes qui étaient visées. Bien sûr, à travers ça, il y avait d'autres préoccupations. On était également dans une société qui devenait de plus en plus matriarcale au sortir de la guerre de 100 ans. Donc, si on élimine les femmes, ben, on élimine ces communautés qui essayaient de se réunir autour d'une vieille madame qui était la patriarche, puis qui avait pris un peu de pouvoir durant la guerre de 100 ans. Donc, il y avait en même temps une manifestation du pouvoir masculin qui n'avait pas trop l'apparition et l'émergence de ces pouvoirs féminins. Mais là, on entre vraiment dans du détail de très historique et très sociologique. Dans le cas de Salem, ici, on est vraiment dans autre chose. À Salem, et c'est extraordinaire parce que même si on a 350 ans qui nous séparent de Salem, on a encore les minutes des procès. Et les minutes des procès nous montrent que les gens étaient définitivement malades. Il n'y avait pas simplement à dire quelqu'un qui pointait du doigt Madame Machin ou Monsieur Tartampion en disant il m'a invité, je l'ai vu faire un sabbat avec le diable. Non, ça allait plus loin que ça. Les gens étaient pris de troubles de comportement, ils avaient des tremblements, ils avaient des maux de tête, des vomissements, même les animaux également étaient malades. Et quand tout ça a débuté dans Salem Town, dans Salem Village, à ce moment-là, les gens de Salem Town, ils ont dit, ben voilà, c'est le diable qui est arrivé là, puis ces gens-là, ils ont été infestés par le diable parce qu'ils font commerce avec les autres, etc. Ils ont été trop libéraux, puis maintenant, ben voilà, hein, ça se retourne contre eux. Et éventuellement, il y a plein d'hypothèses. Bien sûr, il y a l'hystérie collective qu'on doit tenir compte également. Mm-hmm. Il y a ce bras de fer qui se jouait entre deux communautés qui étaient religieuses, mais une plus libérale. Les deux groupes, tu comprends, se disaient très vertueux, mais l'une était plus libérale que l'autre. Donc, on s'accusait mutuellement de plein de maux. Mais on croit aujourd'hui Mais c'est une hypothèse, c'est pas un fait établi. Là, on peut pas revenir 330 ans dans le passé, là. Mais on croit aujourd'hui que les gens de Salem Village ont probablement été empoisonnés par de l'ergot. L'ergot, c'est un champignon qui contamine le seigle.
Hallucinogène?
Voilà, ses propriétés sont proches du LSD. Donc, l'ergot, imaginons une seconde, hein, parce que les procès de sorcières, là, c'est 1692. Bon, imaginons que l'automne précédent, là, donc à l'automne de 1691, la récolte de Salem Village, les gens qui avaient cultivé du seigle, ce seigle avait été contaminé par un parasite qui est ce champignon qui est l'ergot. Durant l'hiver 1691-1692, là, sur le passage, les gens, évidemment, mangeaient ce seigle, on l'utilisait pour faire de la farine, pour faire de la nourriture, donc principalement du pain, et le même seigle était également utilisé dans la moulée pour les animaux. Donc, pas étonnant que les animaux aient été malades. Voilà. Okay. Et les gens disaient, j'ai des hallucinations, j'ai des maux de tête, je me sens pas bien, j'ai des troubles de comportement. Mais évidemment, peu à peu, ils s'intoxiquaient à l'ergot de seigle. Donc, on est ici dans un cas de figure qui est très particulier dans le cas des sorcières de Salem. Et éventuellement, si vous visitez la région de Salem, bien sûr, le village de Salem qui a capitalisé sur cette histoire des sorcières de Salem. Mais ça vaut la peine de faire un petit détour là, de 30 minutes puis aller jusqu'au village de Denver. Il y a à l'entrée du village un magnifique terrain qui est un grand, grand mémorial pour les sorcières et un monument qui est magnifique qui est là, qui nous rappelle le nom de toutes les gens qui ont été arrêtés, accusés et exécutés. On a comme une espèce de livre ouvert et un grand monolithe derrière. C'est magnifique. Ça se trouve à Denver, qui est à peu près à 20-30 minutes de Salem. Donc ça vaut la peine de passer par là parce que il faut se rappeler dans ce contexte-là, culturel, politique, tous les accusés étaient de Salem Village et tous les juges étaient de Salem Town.
Ah, donc ça fait garde-clocher, hein?
Voilà, absolument. Donc,
merci de la recommandation. Je vais l'ajouter à mon carnet d'adresses pour la prochaine année. Je reviens.
Pour en revenir à Jack l'Éventreur.
Ben oui.
Ce que je voulais dire, c'est qu'après toutes ces années à enquêter sur l'Éventreur, j'ai dû me résoudre à me dire que l'Éventreur n'a jamais eu droit à la presse, n'a jamais été mentionné. C'est un individu, un anonyme dans les rues de Londres qui a commis ces assassinats et puis il est disparu dans l'anonymat également. Il est probablement mort ou bien de sa belle mort chez lui ou chez qui il vivait à ce moment-là, ou bien il a été arrêté, envoyé soit dans un institut psychiatrique ou dans un pénitencier pour un autre crime et il est décédé en incarcération sans qu'on ait le temps de découvrir qu'il était également l'assassin de Whitechapel. Donc, il est possible qu'à un moment donné, au tout début de l'investigation, parce qu'on n'a pas les noms de tous les gens qui ont été interpellés par la police. Quand les crimes ont commencé, les policiers ont arrêté plein de gens, les ont interrogés, puis en remettant en liberté. Donc, les noms qui nous sont parvenus aujourd'hui, ce sont les suspects les plus sérieux. Hein, on pense, par exemple, à Kosminski, qui est un nom qui revient souvent. Mais en même temps, il est possible que l'Éventreur ait été arrêté dans la foulée de ces grandes arrestations. Parce que si on regarde ce que les profilers du FBI nous disent, généralement, quand on enquête sur des tueurs en série, on découvre très souvent que le tueur en série a été, à un moment donné ou à un autre, suspecté dans la série de crimes,
oui.
Ou bien il s'est impliqué dans l'investigation. Hein.
Il est allé créer un alibi.
Il est allé voir la police, il a donné un nom pour essayer de détourner les soupçons, etc. Donc, il est possible que le nom de l'Éventreur, quelque part, ait circulé à cette époque, qu'il ait été mentionné par un ou deux policiers, mais malheureusement, l'histoire n'a pas gardé ce nom-là, puis c'est même pas certain si son nom est apparu. Mais si son nom est apparu, on n'en a pas gardé de traces et éventuellement il est mort dans l'anonymat. Je pense que tous les suspects qu'on nous sort là année après année avec des nouveaux livres, je pense que les gens derrière ça, ce sont des auteurs qui ont envie d'être dans la photo. Hein, tu comprends? Dans un jour, si on dit, on a écrit 300 livres sur Jack l'Éventreur.
Vous serez mentionné, c'est ça.
Ces gens-là pourront dire, je suis du nombre, mais dans la réalité, je crois qu'on ne saura jamais qui était Jack l'Éventreur. Et ça, je dirais que c'est une investigation qui m'a demandé, là, facilement 15 ou 20 ans, là, d'arriver à cette conclusion-là. Après avoir épluché et évalué l'ensemble de tous les documents, j'ai dû me résoudre à dire, probablement que je ne le saurai jamais. Mais de façon en moyenne, Je dirais, au moment où on se parle, grosso modo, là, je dirais que j'ai enquêté peut-être de manière très soutenue. Là, on parle d'investigation de longs mois, même dans certains cas de longues années. J'en ai à peu près 200 à mon actif et j'ai à peu près 2000 enquêtes plus superficielles.
Wow.
Donc, des enquêtes sur lesquelles j'ai mis quelques jours et puis j'ai colligé de l'information, tout ça, mais des enquêtes très, très soutenues, comme celles qu'on retrouve dans ce livre sur les fraudes du paranormal, ben, c'est à peu près 200 dans mes archives. Et dans ces cas-là, ben, comme tu l'as mentionné, si on prend par exemple les momies Inca, ben, j'ai été informé de ça à partir de 2015, lorsque l'histoire a commencé à circuler. Et là, ben, j'ai mis à peu près 2 ans à obtenir les documents, les informations, contacter les archéologues, contacter les anthropologues qui avaient été impliqués dans le dossier, contacter les gens apparemment qui avaient fait des analyses, parce que les auteurs, si tu as lu ce passage-là dans le livre, on mentionne les gens qui sont derrière la fraude, disaient, ben voilà, on a soumis des échantillons, on les a soumis à des laboratoires qui ont fait des analyses ADN, et ces analyses ADN semblent dire qu'on a on a un patrimoine génétique qui n'est pas du patrimoine génétique humain, on a ci ou ça. Et moi, j'ai contacté les laboratoires pour parler avec eux de ces résultats-là. Donc, j'ai parlé à tous les scientifiques qui étaient impliqués. Et je donne dans mon livre l'autre version de la chose. Hein. Les spécialistes qui ont fait d'analyse ADN disent, ben voilà, quand on dit qu'il y a des éléments d'ordre génétique qui ne sont pas de la génétique humaine, dans la bouche d'un Rémy Maussan, dans la bouche d'un Thierry Jamin, ça devient de la génétique non humaine, donc forcément extraterrestre. Alors que pour eux, la génétique non humaine, ça peut être de la génétique animale, ça peut être de la génétique de n'importe quoi. C'est donc, c'est pas forcément extraterrestre. C'est pas parce que ce n'est pas humain que c'est forcément extraterrestre. D'ailleurs, certains d'entre eux soulignaient, puis je l'ai bien rapporté, qu'ils ont tous, unanimement, tous les laboratoires ont déploré le fait de ne pas avoir assisté à la prise des échantillons.
Ça, eux ont donné l'autorisation de prélever les échantillons. Dans le cas de la momie dans la glace, l'homme, le corps de l'homme dans la glace, là, on n'a pas pu faire d'échantillons.
Lui, on n'a pas pu le faire.
Lui, on lui a dit, regarde avec tes yeux, puis tu vas voir que
c'est une vraie momie. Regarde, puis tu vois que c'est vrai.
Faut le voir pour le croire, ça.
Ouais, c'est ça. Dans le cas des momies Inca, donc les gens qui étaient derrière la fraude, hein, je pense par exemple à Rémy Maussan ou Thierry Jamin, qui sont les principaux propagandistes de cette arnaque-là, ben c'est eux qui procédaient aux échantillons. Donc, eux, ce qu'ils faisaient, ils disaient, ben voilà, j'ai pris un échantillon. On sait pas de quelle façon ils l'ont pris. Bon, ils ont tourné des films maison pour dire, voici comment on l'a pris, mais on sait pas c'était quoi le protocole. Et les laboratoires, il faut se rappeler que ce sont des laboratoires auxquels n'importe qui a accès. Hein. Ça n'a pas été fait dans un cadre scientifique. C'est-à-dire que si demain matin, essayons de regarder un peu comment se ferait une démarche scientifique. Si moi, demain matin, je trouvais, pour les gens de Québec, par exemple, on trouvait finalement le corps de Champlain.
Le tombeau de Champlain.
On trouve le tombeau de Champlain. Mais là, il va y avoir évidemment des archéologues, des anthropologues qui vont se présenter sur place. On va faire appel également à des laboratoires spécialisés dans différents types d'analyses, l'ADN, les tissus, le reste. Donc, on va s'assurer d'avoir une équipe en place pour procéder de cette manière-là. Et ces gens-là, évidemment, le font. C'est un travail qui se fait en suivant des protocoles et une règle scientifique. Dans le cas des momies Inca, c'est pas ça qui s'est passé. Donc, on a Thierry Jamin, Rémy Maussan, qui font la promotion de ces momies-là en nous disant que ce sont des extraterrestres. Et là, pour essayer d'ajouter à l'aspect sérieux de leur chose, ils prennent des échantillons, c'est pas vraiment d'où viennent ces échantillons. On sait même pas d'où viennent les momies dans les faits, parce que les momies, ces gens-là nous disent, ils ont été trouvés par des waqueros. Les waqueros, ce sont des pilleurs de tombes. Mais c'est bon. Ils ont été trouvés dans une tombe au Pérou, ou est-ce qu'ils ont été trouvés dans le sous-sol d'un des waqueros qui l'a fabriqué lui-même? Tu sais, comment ça, on n'a pas le moyen de vérifier la source. Alors, ces momies-là arrivent sur le marché, puis on sait pas d'où elles viennent. Et là, Jamin et Rémy Maussan vont prendre des échantillons, vont les envoyer des laboratoires qui sont des laboratoires publics. Alors, c'est pas le laboratoire de l'Institut de recherche en archéologie du Musée du Louvre, là. C'est pas ça, là. C'est des laboratoires comme on peut en trouver dans les pages jaunes d'un annuaire téléphonique et qu'on va contacter soit pour faire un test d'ADN pour déterminer la paternité, par exemple, ou des trucs comme ça. Donc, c'est des laboratoires qui, en échange de dollars, vont ont procédé à des analyses, peu importe ce que tu vas lui demander. Donc, ça peut paraître sérieux en disant, ah oui, une analyse ADN a été menée par le laboratoire X ou Y, c'est Genetic ADN du Canada. Mais Genetic ADN du Canada, c'est un laboratoire, c'est une entreprise commerciale. Si tu donnes 20 piastres, ben, ils vont analyser le sang du père possible de ton enfant ou de ton chien ou de ton chat ou de n'importe quoi. Tu comprends-tu? Ils sont là pour faire des sous puis ils vendent des services à un public. Et c'est ce qui a été fait là. Les gens à qui j'ai parlé ont tous déploré. Certains d'entre eux étaient très compétents. Certains n'ont pas caché leur idée que tout ça était une fraude. Hein, même s'ils ont fait l'analyse, ben, tu sais, quand c'est arrivé, bon, c'était bien clair que c'était un peu une fraude. Nous, notre travail, c'est simplement de déterminer s'il y avait de l'ADN humain. Donc, on est arrivé avec un résultat, par exemple, 20% d'ADN humain puis 80% d'ADN non humain dans la bouche, comme je l'ai mentionné, d'un Rémi Maussan ou de Thierry Germain. ADN non humain veut dire extraterrestre, alors que c'est pas ça du tout. Dans bien des cas,
ça aurait pu être animal, non?
Oui, c'est ça. Donc, ça pouvait être des d'ailleurs, un des laboratoires me disait qu'il était clair que les échantillons qu'ils avaient obtenus, c'était des os d'oiseaux, hein, parce que c'était des os creux, puis ils voyaient que c'était des os d'oiseaux. Bon, ces laboratoires-là, donc, ont tous, mais unanimement, on dit, c'est pas sérieux, parce que si on veut vraiment faire un travail comme celui-là, c'est-à-dire, si toi, là, imaginons un cas de figure, là, si tu te retrouves enceinte et bon, tu sais pas qui est le père, tu décides de faire un prélèvement sanguin de l'enfant, puis bon, déterminer qui est le père. Tu comprends, il y a pas une source, on a l'ADN du père, puis on a le sang du pseudo-père ou du prétendu père, puis l'analyse se fait. Donc on n'a pas besoin de tout un grand protocole, tu sais, je veux dire, tu sais, c'est sûr que si le gars dit "Hey, moi on m'a jamais pris de goutte de sang", puis là toi tu dis "Oui, j'y ai pris une goutte de sang la nuit, il dormait, je l'ai piqué là." Tu sais, tu comprends, ça devient, mais c'est pas comme ça que ça marche. On comprend bien qu'une analyse de sang paternité, ça se fait généralement avec la bonne entente des différents parties. Dans le cas présent, on est vraiment dans une dynamique archéologique et historique. Donc, il est très important d'établir des protocoles pour le prélèvement des échantillons qui seront analysés. D'où vient l'échantillon? D'où vient la momie? De quelle façon ça a été pris? Est-ce qu'on s'est assuré que les instruments qui ont pris les échantillons n'avaient pas été contaminés? Or, tous les laboratoires, 100%, pas 98, pas 99, 100%, des laboratoires qui ont procédé à ces analyses-là n'ont pas été invités à participer au protocole de prélèvement. Donc déjà là, tu dis là, c'est du grand n'importe quoi là. Ça sent malheureusement la fraude. Et ensuite, bien sûr, l'interprétation que ces gens-là, ces propagandistes vont faire de ces analyses-là pour essayer de valoriser leur découverte en disant ce sont des extraterrestres. Tout ça, ben là, évidemment, on est dans un tout autre domaine.
Est-ce qu'il y en a une de dans la vingtaine d'affaires que tu nous partages dans ce livre-là que tu aurais vraiment espéré après toutes tes recherches, après tes entrevues? D'ailleurs, j'y reviens par rapport à ça. Qu'elle s'avère vraie, finalement. Tu sais, de pas être le débunker du paranormal pour cette histoire-là. Il y en a-t-il une que, secrètement, tu aurais souhaité que ce soit vrai?
Ben, écoute,
le crâne de cristal... Je sais que c'est une question touchée, mais...
Oui, non, mais je pense, le crâne de cristal, j'aurais aimé que ce soit vrai. Tu sais, le crâne de cristal, peut-être parce que, tu sais, j'ai eu la chance de le tenir dans mes mains, puis je le raconte assez en détail de la façon dont ça se passe, hein, cette histoire de crâne de cristal, pour situer un peu les gens, ça c'est une affaire qui circule dans l'univers du mysticisme et de l'ésotérisme, hein. On raconte, et en fait c'est né à peu près là au début du, je dirais aux alentours des années 40, des années 50, là au milieu du 20e siècle, cette idée là que quelque part des civilisations du Mésoamérique et de l'Amérique du Sud, là, donc on parle des Incas pour le Mésoamérique, on parle des Aztèques et des Mayas, et pour les sociétés péruviennes, bien évidemment, ou les Andes, on parle principalement des Incas. Donc ces gens-là auraient développé des cultes autour du crâne, et principalement les Mayas auraient fabriqué des crânes de cristal qui auraient été utilisés lors de cérémonies, et que ces crânes étaient quelque part gardiens d'une espèce de savoir universel. Bon, évidemment, là, on a toute une dynamique ésotérique autour de ça, mais si on éclipse si on éclipse cette notion de l'ésotérisme, hein, c'est un peu comme dire, bon, une boule de cristal, ben, pour toi, pour moi, ou pour les gens qui sont des athées, vont dire une boule de cristal, c'est une boule de cristal. On comprend que pour les gens qui font des mancies, hein, qui croient à l'ésotérisme et tout ça, ben, une boule de cristal devient un outil de mancie pour pouvoir prédire l'avenir et tout ça. Donc,
comme les cartes manciens,
ça vient de là. Ouais, c'est ça. Donc, il y a comme ça devient un outil et donc ça dépasse le cadre de l'objet lui-même. C'est pour toi. Si je te mets entre les mains un jeu de tarot, ben, c'est des cartes de tarot. Mais pour quelqu'un qui fait le tarot, c'est un outil. Et dans ce cadre-là, donc, à partir du milieu du 20e siècle, on a vu apparaître différents crânes de cristal. Certains étaient surtout, la plupart d'entre eux étaient de facture très, très maya, très Amérique centrale. Il suffit d'avoir visité cette région du monde. Je sais pas si je sais que t'es allé au Mexique, mais est-ce que tu as visité un peu
cette culture-là? J'ai pas vu les ruines, malheureusement. Non, okay. J'aurais aimé ça.
Mais quand on visite le, tu sais, il suffit de regarder un peu des livres, ou même si on est allé à Cancun, éventuellement, on est tombé sûrement sur de l'art un peu maya, mm-hmm. Puis ils ont des formes un peu des, si on prend des crânes, par exemple, ils ont les joues très, 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 les pommettes, hein, très sorties, des grosses orbites, là, pour le crâne, les dents sont très carrées. Donc, une stylistique autour de ça. Et la plupart des crânes de cristal qu'on avait apparaître dans les années 50 avaient cette stylistique et avec, bien sûr, la prétention que c'était des crânes, parfois, vieux de plusieurs siècles, utilisés par les Mayas lors de cérémonies. Et arrive dans ce contexte-là un crâne d'une facture exceptionnelle. Ce crâne-là, il est parfait. Il représente un crâne humain parfait. Il n'a pas cette fameuse stylistique maya ou artistique qu'on pourrait retrouver en Amérique centrale. C'est vraiment une reproduction d'un crâne humain, mais vraiment là, très, très, très précise. Il est en deux morceaux. Une partie de la mâchoire inférieure se détache et on a le reste du crâne. Et la légende, c'est que le crâne aurait été trouvé quelque part au milieu des années 20 dans une cité qui s'appelle Lubantum, qui se trouve aujourd'hui dans le Belize. À l'époque, c'était l'Honduras britannique, ça a changé de nom depuis. Et c'est un archéologue, un aventurier du nom de Mike Mitchell Hedges qui l'aurait découvert. Et à ce moment-là, il était en compagnie de sa fille, une Canadienne d'ailleurs, qui est née en Ontario, et qui est une fille adoptive, et c'est elle, apparemment, lors de son 17e anniversaire, qui aurait trouvé le fameux artefact. Et depuis, le crâne de cristal, il a été mille fois utilisé. Je me rappelle, dans les années 70 et 80, il y avait une série à la télévision qui s'appelait Le Monde Mystérieux d'Arthur C. Clarke, et la série commençait, on voyait le crâne de cristal qui tournait devant la caméra qui jetait mille reflets. C'est un objet magnifique. Et, évidemment, pour ceux qui croient à une espèce de valeur ésotérique ou mystique dans le crâne, il y aurait les Mayas auraient mis là-dedans, un peu comme dans un disque dur, une espèce de savoir. Il suffit d'être un médium pour pouvoir avoir accès à cette connaissance ancestrale qui est dans le crâne. Et je dois t'avouer, cette histoire-là, je la trouvais intéressante, ne serait-ce que sur le plan archéologique,
oui.
Malgré que mes connaissances sur les civilisations du Mésoamérique me laissaient, déjà, j'en avais parlé avec certains de mes professeurs à l'université, et il n'y avait jamais eu de culte du crâne de cristal. Ça n'existe pas. Le crâne est très représentatif chez les d'êtres humains, toutes les sociétés du monde ont développé quelque part des crânes. Hein. Je veux dire, le crâne, c'est un symbole qui est très important. Les pirates mettaient des crânes sur le drapeau. Tu sais, on continue encore. Le crâne, c'est quelque chose de très, très symbolique.
Symbolique de la mort, nécessairement?
Oui, c'est ça. C'est symbolique de la mort. C'est très représentatif. Et toutes les sociétés, à travers l'histoire, qui ont voulu dépeindre la mort, ont utilisé souvent le crâne humain comme symbolique. Et on le retrouve également dans le mésoaméricain. Il suffit de visiter les ruines aztèques ou des ruines mayas. Les aztèques étaient davantage du côté de Mexico, alors que les mayas se sont surtout étendus dans la péninsule du Yucatan. Et quand on visite ces ruines, on voit un peu partout, dans les fresques, on voit des crânes. On voit que les mayas, plus tardivement, les aztèques, ont développé tout un culte autour du crâne. Mais l'idée d'utiliser des crânes taillés dans le cristal pour faire des cérémonies, Ça n'existe pas en archéologie. On n'a jamais trouvé de crâne de cristal sur aucun site archéologique. On a trouvé des crânes humains, on a trouvé des crânes sculptés dans la pierre, mais trouver des crânes de cristal, ça, on n'en a jamais trouvé. Toutes les crânes qu'on a, On a des légendes. Il aurait été trouvé ici, il aurait été trouvé dans telle ruine, à tel endroit, mais il n'y a aucun document archéologique, historique qui prouve que ces crânes-là aient jamais été trouvés sur des lieux de fouilles officiels. Et le crâne de Mitchell Hedges était entouré également d'un mystère comme celui-là. Et donc, bref, éventuellement, pour faire une histoire courte, j'ai eu la chance de rencontrer à un moment donné, bon, Mitchell Hedges est décédé, le crâne est passé dans les mains de sa fille, qui en a été la gardienne, qui a vécu jusqu'à l'âge de 100 ans d'ailleurs. Et alors que Anna Mitchell Hedges avait 97 ou 98 ans, elle m'invite à passer un après-midi avec elle à Chicago. Alors, en fait, pas à Chicago, mais elle habite pas loin de Chicago, en banlieue de Chicago. Donc, je me rends chez elle et donc je discute et je le raconte dans le bouquin. Quand je suis arrivé chez elle, je me suis dit, oh, je m'attendais à voir le crâne de cristal qui m'attendait sur la table du salon. J'arrive là, rien du tout. Alors, je me dis, OK. Et là, je me mets à jaser avec elle. Il y a elle qui est présente, qui, comme je l'ai mentionné, elle avait 97 ou 98 ans. Il y avait son mari, qui était quand même 30 ans plus jeune que elle.
Oh. Hein,
lui, il était dans la soixantaine, qui était là. Moi, j'arrive, je discute avec elle, puis là, le crâne n'est pas là. Et à un moment donné, elle dit à son époux, puis là, elle me raconte comment elle l'a trouvé. Hein, et toute l'histoire, elle est montée sur un temple, il y avait une faille, on a creusé un tunnel, on lui a permis de descendre dans le tunnel un peu comme harnaché, comme un archéologue, est allé récupérer l'objet, puis là, elle me raconte tout ça. Et là, à un moment donné, au cours de la conversation, elle dit à son mari, elle dit, ben voilà, elle dit, Samy l'aime bien. Samy, c'est assez amusant parce que Samy, c'est le nom que son père lui donnait à elle, hein, ce petit nom affectueux. Et c'est le nom ensuite qu'elle a utilisé pour décrire le crâne.
Ah!
Elle n'en parle pas, elle n'en parlait pas en utilisant l'expression it en anglais, là, avec lequel on définit une chose.
Oui.
Mais elle en parlait comme étant he, hein, comme s'il était un quelqu'un. Comme un individu.
Comme un souvenir de son père, pour elle? Ou...
Non. Pour elle, le crâne était une entité. Elle disait que le crâne était comme une entité vivante.
Okay.
Il avait une personnalité propre. C'était pas une chose, c'était une personnalité. Alors, à un moment donné, elle dit à son époux, elle dit, ben voilà, elle dit, Samy l'aime bien, en parlant de moi. Elle dit, Samy l'aime bien, fait que tu peux aller le chercher. Fait que là, lui est parti. Il revient 5 minutes plus tard avec une boîte en bois et là, il met la boîte sur la table du salon, il la déploie, il l'ouvre, hein, les panneaux de chaque côté tombaient.
Hein?
Et là, au centre, il y avait le crâne de cristal. Il était comme sur une monture qui permettait de tourner. Écoute, avec les lumières du soleil qui entraient par les baies vitrées du salon,
ça jetait toute mille feux.
J'étais renversé. L'objet, il est vraiment magnifique. Mais au-delà de l'aspect magnifique de la chose, comme je l'ai dit dans mon bouquin, je l'ai regardé dans les orbites et je lui ai posé la question, parce qu'elle me dit « Tu peux y poser des questions. » Et ma question, ça a été « Oh, crâne de cristal, qui dit la vérité? » Et la vérité, c'est que le crâne est une fraude.
OK.
Il n'a jamais été trouvé à Loubantoum. Donc, j'ai mené une enquête. Je suis allé chez Sotheby's à Londres. J'ai fait sortir des registres. Le crâne a été fabriqué quelque part autour des années 1920, probablement par des joailliers allemands. Il s'est retrouvé entre les mains d'un certain Bourbon qui l'a vendu et éventuellement de vente en vente, il l'a passé entre plusieurs mains. Et quelque part dans les années 1940, en 1943 de mémoire, il y a eu une vente chez Sotheby's et Mike Mitchell Hedges a acheté le crâne à ce moment-là. Donc, il l'a pas trouvé dans des ruines au Mexique. Tout ça, là, c'est une pure invention.
C'est moins glamour que les histoires d'Indiana Jones.
Oui, hein? Le crâne est d'une facture moderne. Il a été fabriqué, comme je l'ai mentionné, avec des outils modernes au début du 20e siècle, probablement par des joailliers. Puis ça s'inscrivait dans la mode de l'époque, hein. Puis je l'explique bien dans mon bouquin. Quelque part, Howard Carter a trouvé le tombeau de Toutankhamon en 1922, ça a déclenché une espèce de égyptomanie. Hein, tout le monde, on s'habillait comme des Égyptiens, tu sais, on dansait comme des Égyptiens. Les grands hôtels dans le monde faisaient leur décoration à la mode égyptienne. Tu sais, il y avait vraiment une égyptomanie, là. C'était la fièvre de l'Égypte partout. Puis,
ça a été une mode, effectivement, parce qu'il y avait du papier peint chez la mère de ma meilleure amie d'Égypte.
Ah ouais, c'est
je
ça.
Me
donc,
souviens
c'était,
de ça.
Et ça, c'était lancé avec la découverte de Toutankhamon qui avait fait fantasmer. Mais il faut se rappeler que les Mayas, ça a été un peu la même chose. Hein. Les Mayas, la civilisation Maya a été découverte aux alentours de 1880. Donc avant ça, on les connaissait pas. Mm. On se rendait sur place, on connaissait les Aztèques, mais on connaissait pas les Mayas. Et quand on arrivait dans la région du Yucatan, les indigènes qui étaient là, qui étaient des descendants des Mayas, disaient quelque part dans la jungle, il y avait des temples, des cités grandioses qui avaient été construites par leurs ancêtres. Mais on confondait à ce moment-là, on disait les ancêtres, c'est les Aztèques. Tu sais, on n'imaginait pas une espèce de grande civilisation qui était complètement à côté. On imaginait plutôt une espèce d'affiliation entre ces gens-là. Et ce n'est que quelque part, là, comme je l'ai mentionné, dans la deuxième moitié, le dernier quart, en fait, du 19e siècle, que des explorateurs sont allés dans la jungle, et principalement un explorateur américain et un dessinateur britannique, un dénommé Stephen et Catherwood, se sont rendus dans la jungle du Yucatan et ils ont découvert les temples mayas. Donc, ce sont eux les premiers qui ont découvert la civilisation maya. Et à partir de là, ce Catherwood, là, cet architecte dessinateur qui accompagnait Stephen, c'est Stephen à qui on attribue la découverte, mais Catherwood étant le dessinateur, il a fait des planches de dessin qui sont magnifiques, là. Des œuvres d'art. J'ai chez moi dans ma bibliothèque un ouvrage des planches à dessin de Catherwood. C'est magnifique. C'est pas de la photo, mais c'est tellement précis, tellement détaillé comme dessin qu'on dirait presque des photos. Ça nous permet de voir ces temples tels qu'ils étaient lorsqu'ils ont été tirés de la jungle.
Hein. Aïe, aïe.
Et on peut s'imaginer un peu le sentiment de Stephen et Catherwood lorsqu'ils arrivaient sur un site et là, ils ne voyaient qu'entre les arbres des vestiges de ces ruines grandioses.
La nature qui veut reprendre sa place,
ben
avec
oui,
les plantes grimpantes, la végétation qui couvre un peu.
Je te dis, c'est magnifique. Les images de Catherwood sont magnifiques parce que ça nous donne une vision. Puis on voit que ces temples-là, même si les cités étaient gigantesques, la nature avait déjà passablement repris ses droits. Et c'est difficile de s'imaginer aujourd'hui pour les gens qui ont visité le Mexique récemment puis sont allés, par exemple, voir des cités comme Chichen Itza,
oui,
de s'imaginer que cette cité-là, à un moment donné, elle était entièrement recouverte de terre puis avec quelques petits bouts de roches qui sortaient à gauche et à droite. Puis tout ça est entouré d'arbres. Il a fallu tout nettoyer cet endroit-là. Donc, les dessins de Catherwood nous plongent là-dedans. Et il y a eu, à ce moment-là, en Occident, une espèce de mayanomanie. Hein? Les mayas sont devenus à la mode. Tout le monde voulait avoir du petit bout de maya, un petit bout de temple, un petit dessin, une petite photo. Il y avait une fascination pour les mayas. Et les crânes de cristal apparaissent à ce moment-là. Ce sont des fraudes, ce sont des gens qui ont fabriqué. Puis c'est assez amusant parce qu'on voit une évolution. Hein? Au début, les premiers crânes de cristal, qui sont assez petits, ont à peu près la taille de bijoux, là. Ils apparaissent, ils sont petits, et ils sont vendus comme étant des bijoux qui reprend l'art maya. Donc, il n'y a pas de prétention là que c'était des objets de culte. C'est simplement des bijoux avec une stylistique maya. Ça, c'est très intéressant. Et puis, après ça, on va voir apparaître des nouveaux crânes qui, eux, seront présentés comme des véritables crânes maya. Et là, à partir du moment où c'est des vrais crânes maya fabriqués par les mayas, là, on commence à voir apparaître des prétentions ésotériques et mystiques autour de ça.
Ce que les cristaux sont devenus par la suite.
Tu as tout à fait raison.
Okay.
C'est, l'exemple est parfait. Hein? Au 19e siècle, les gens trouvaient des cristaux. C'était des cristaux. On trouvait une géode, on brisait la géode. Voilà, on a des cristaux. Puis là, à un moment donné, il y a toute une espèce de savoir, une culture ésotérique et mystique qui est tournée autour de ça. Donc, j'aurais voulu croire à la fable que m'a racontée Anna Mitchell Hedges. J'aurais voulu croire à ses aventures que son père, parce que son père était également un menteur pathologique, hein. Lui, il se définissait comme une espèce d'Indiana Jones. Et je l'explique aussi dans le bouquin, hein. Il disait que c'est lui qui avait découvert la cité de Lubantum, alors que c'est pas vrai du tout. La cité avait déjà été découverte. Il s'est rendu à Lubantum, mais il s'est rendu là comme étant un touriste, hein. En fait, il y avait des équipes d'archéologues qui allaient sur place. Puis à un moment donné, il en a accompagné une, mais la cité était déjà connue à ce moment-là, là. Donc il ne l'a pas découvert. Tu sais, c'est un type qui aimait bien augmenter et améliorer son CV. Tu sais. Fait que c'est ce qu'il a fait. Puis quand il a eu acheté le crâne chez Sotheby's, qui avait acheté d'un son ancien propriétaire, était un certain monsieur Burley. Lorsqu'il a acheté le crâne, ben évidemment, il a attendu quelques années que l'histoire soit un peu oubliée, puis il a commencé à raconter qu'il l'avait trouvé dans la jungle du Yucatan, etc. Donc il a rajouté une histoire, et à son décès, c'est assez amusant parce que de son vivant, Mike Mitchell-Hedges n'a jamais dit que c'était sa fille qui avait trouvé le crâne. Hein? Il disait que c'est lui qui l'avait trouvé.
Ah, il a pris le mérite.
Ouais. Et quand il est mort, ben c'est sa fille qui a récupéré le mythe. Puis là, elle est devenue, elle s'est dépeinte comme celle qui l'avait trouvé le crâne.
Ah, OK.
C'est elle. Bon, ben c'est pas mon père finalement qui l'a trouvé, c'est moi qui l'ai trouvé. Mais en réalité, c'est ni elle ni son père. Il a simplement été acheté dans une vente aux enchères dans les années 40.
Hey, en tant qu'enquêteur du paranormal, comme ça, arriver chez des gens qui ont ça, des convictions, le dur comme fer, qui ont fait des rencontres avec les humites, ça, ça, c'en est un autre sujet. Hey, ça, c'est le plus gros point d'interrogation dans ma tête de ton livre, là, la civilisation humite. C'est-tu comme les humides ont-ils échoué là où les Raéliens ont réussi? C'est un peu comme ça qu'on peut le voir ou c'est vraiment deux entités à part?
C'est assez étonnant parce que dans le cas des humides, il n'y a pas cette vision ésotérique ou mystique qu'on va retrouver chez les Raéliens. C'est pas ça que les humides font. Hein? Donc pour les gens qui nous écoutent, qui ne connaissent pas cette histoire-là...
Celle-là, je ne la connaissais pas.
Elle est dans mon bouquin, c'est une histoire tout à fait incroyable.
Ils ont décidé, eux autres, qui parlent espagnol, mais sont partout dans le monde.
Ouais, c'est ça. Donc, pour résumer un peu l'affaire, on est au milieu des années 60. Il y a un type qui prétend être en contact avec des extraterrestres. Mais c'est une espèce d'illuminé. Hein. Je veux dire, le lundi matin, il discute avec les Vénusiens. Le mardi, c'est les Martiens. Le mercredi, c'est les Mercuriens.
Il est à différents postes.
Il se définit un peu comme le messager, le porte-parole des extraterrestres. Éventuellement, ce type-là, M. Manzano, va recevoir un coup de téléphone. Et là, il y a comme une espèce de personnage qui lui parle avec une voix nasillarde. Il parle un petit peu comme ça. On dirait comme ça. Là, il lui dit, j'ai entendu la bande audio parce qu'on l'a tapé. Hein. Il parle comme un canard, comme Daffy Duck. Et là, il dit, je m'appelle, je suis un extraterrestre de la planète Humo. Puis il commence à raconter ça. Puis là, il dit, on a une délégation sur Terre. Là, évidemment, il y a une conversation. Après ça, il y a des lettres. Puis ça, il y a comme un échange soutenu qui va se faire. Et là, il raconte qu'il y a toute une délégation d'extraterrestres qui sont arrivés sur Terre venant d'une planète qui s'appelle la planète Humo, et que cette planète-là a envoyé une espèce de délégation sur Terre qui sont arrivés en France dans les années 50. Et là, aujourd'hui, ce contingent-là se trouve au Mexique et ils veulent faire de M. Manzano, Sesma, ils veulent en faire le porte-parole des extraterrestres. Alors, ce monsieur Sesma devient donc le porte-parole des extraterrestres. Et les extraterrestres, donc, vont lui écrire des lettres. Effectivement, c'est des lettres qui sont dactylographiées, tapées en espagnol.
Toujours!
Et les extraterrestres expliquent pourquoi ils utilisent des lettres dactylographiées. Parce que eux, ils doivent engager des gens pour taper leurs lettres parce que eux ont une sensibilité du bout des doigts.
Quand même particulier comme excuse.
Ils ont engagé des tiers qui tapent les lettres à la dactylo. Et là, au départ, c'est assez intéressant parce que ces lettres-là, il n'y a pas vraiment d'éléments d'ordre mystique ou ésotérique. On est vraiment dans un univers ufologique. Hein, c'est vraiment, on s'adresse à des amateurs d'OVNI. Les années 60, c'est populaire, c'est les extraterrestres. Les humides sont très, très froids. Hein? Ils racontent comment leur planète, à quoi ressemble leur planète. Elle tourne autour de l'étoile Wolf 424. Puis là, ils racontent toutes sortes de trucs un peu comme ça. Ils ont un discours qui est très, très froid. Et éventuellement, M. Sesma, qui lui aime davantage les aspects ésotériques des Martiens, des Vénusiens, ben il va délaisser les humides et les humides vont trouver de nouveaux porte-paroles. Et tout ça va durer jusque dans les années 90. Et il y a des gens qui vont vraiment embarquer là-dedans. Hein? Pour le citer, il y a un scientifique français qui s'appelle Jean-Pierre Petit,
oui,
qui a surpris le monde à un moment donné parce que, bon, ces lettres-là, moi, quand j'ai commencé dans le domaine des ovnis, j'ai entendu parler de l'affaire Humo. Ben, c'était pour moi, c'était clair que c'est une fraude. C'est des extraterrestres qui tapent des lettres à dactylo. Je veux dire, bon, pas besoin d'être ruiné pour comprendre que ça ne tient pas la route. Et là, tout d'un coup, au début des années 90, il y a ce scientifique, Jean-Pierre Petit, pas le moindre. Hein. C'est, il est considéré comme l'un des pères de la cosmologie.
C'est une sommité dans le domaine. C'est pas gênant comme CV.
Il a pensé, on lui prête souvent le concept des univers gémellaires, là, donc les univers gémeaux, jumeaux. Ensuite de ça, il est également l'un des pères de la propulsion par magnéto-hydrodynamique. Donc l'idée d'un système de propulsion utilisant l'énergie magnétique pour déplacer ce qui est en avant vers l'arrière, un peu comme un bateau qui prendrait l'eau d'en avant puis l'enverrait derrière. Et c'est un grand scientifique français. Il a travaillé longtemps pour le Centre national de la recherche scientifique en France, tout ça. Et là, à un moment donné, en 90, déjà, il y avait un intérêt pour les ovnis, il faut quand même le dire. Là, il avait publié à un moment donné un ouvrage sur les ovnis, ce qui le mettait un peu en position marginale par rapport à ses collègues scientifiques. Et puis, au début des années 90, il lâche une bombe. Et cette bombe, c'est beaucoup de mes idées sur la magnéto-hydrodynamique ou sur les univers gémellaires, j'ai puisé la source de cette information-là dans des lettres, dans ces fameux courriers dactylographiés envoyés par les humides. Et là, il dit que cette information-là, elle est qualitative, elle était en avance sur son temps, et à mon avis, il ne peut pas s'agir d'une fraude, c'est obligatoirement des extraterrestres qui ont tapé les lettres. Évidemment, c'est renversant. On a un scientifique de haut niveau qui a cette prétention-là. Tu dis, wow, c'est assez incroyable. Mais Jean-Pierre Petit, et comme je l'explique bien dans mon livre, est peut-être un très grand scientifique. Mais quel mauvais enquêteur! Il commet des erreurs sur les dates, sur les lieux. C'est vraiment du grand n'importe quoi. Il aurait dû se donner la peine avant de se placer dans une position aussi ridicule, parce que c'est ça, hein, c'est une position ridicule. S'il avait fait ses investigations correctement, il n'aurait pas sorti des âneries pareilles. Et on pourrait longuement nommer, comme par exemple dans son livre, parce qu'il a écrit un ouvrage éventuellement qui s'intitule « Les extraterrestres sont déjà parmi nous ». Et dans ce livre-là, il dit, les humides, en 1962, parlaient d'univers gémellaire, alors que l'idée des univers gémellaires n'a été proposée que plus tardivement, vers 1967.
Il dit comment si
le scientifique derrière cette idée-là, qui est Andrei Sakharov, un scientifique qui était en résidence surveillée là, en Russie, parce qu'il est un peu dissident, donc si Sakharov a pensé à ça en 1967, avant lui, personne n'avait pensé à ça. Or, comment expliquer qu'on retrouve ça dans des lettres humides qui ont été tapées en 1962? Alors, il suffit de faire un peu de recherche pour découvrir que les humites ont pris pour la première fois contact avec Monsieur Fernando Manzano Sesma en 1965, et les premières lettres qui parlaient d'univers gémellaire sont arrivées vers 1969 ou 1970. Donc, des années non pas avant les théories proposées par Andrei Sakharov, mais bien des années après. Donc, ce Jean-Pierre Petit a fait une très mauvaise investigation, et malheureusement, il a contaminé les gens, parce qu'il y a plein de gens qui croient à l'affaire humide, et ils nous disent, Jean-Pierre Petit, passez-moi l'expression, mais c'est un mauvais enquêteur. Hein,
ouais, il s'est perdu, là.
Il s'est perdu, là. À un moment donné, là, c'est out, là, tu sais. Et il y a un truc là-dedans, puis les gens vont le découvrir dans mon livre. À un moment donné, on est au début des années 2000, et je me retrouve en 93. Je suis en Espagne et j'enquête sur l'affaire Humo. Et là, à un moment donné, je rencontre un journaliste qui me dit il paraît que les autorités espagnoles ont déjà enquêté sur l'affaire Humo puis tout ça. Ah, parfait. Fait qu'éventuellement, j'établis mes contacts et quelques années après, je me retrouve justement à Madrid à nouveau pour poursuivre l'investigation là-dessus. Et c'est là que j'avais entendu parler pour la première fois de Manuel Blanco Romasanta, notre loup-garou dont je t'ai déjà parlé. Là. Oui. Et donc, je me retrouve chez les policiers à Madrid. Et là, je lui dis, il paraît que vous avez un dossier sur l'affaire Humo. Et là, au départ, ils veulent pas trop en parler parce que c'est assez particulier en Espagne. Hein. C'est pas comme ici. Là, la liberté d'accès à l'information est pas la même. Et là, ils commencent à me dire, oui, mais c'est un dossier qui relève de la sécurité intérieure puis qui fait partie des services de renseignement. Mais finalement, ils acceptent de me sortir le dossier, puis je le décris dans le bouquin. Ils mettent le dossier dans la face, puis là, je commence à regarder. Et là, je découvre que dès les années 70, hein, On le savait, les policiers, eux, savaient qui étaient les Zumites. Parce qu'il y avait comme une espèce de secte qui s'était développée en parallèle. Et cette secte-là n'avait rien à voir avec le groupe original.
Okay.
Mais comme il y a des membres du groupe original qui étaient très liés à l'affaire, les policiers les ont rencontrés. Et ces gens-là ont avoué spontanément que c'est eux qui avaient fait les lettres. Ils ont dit, ouais, mais mettez-nous pas en prison, là. C'est nous autres qui avons écrit les lettres. Donc, ils ont tout révélé. Donc, déjà, là, dans les années 70, les autorités espagnoles avaient tout un dossier sur cette gang de zigotos qui croyaient recevoir des lettres des Zumites, et ils savaient exactement qui était derrière, qui écrivait les lettres, qui les envoyait, d'où c'était posté, comment c'était posté. On avait tous les aveux. Et là, je les avais droit devant moi avec la signature de ces personnages-là au bas des feuilles, au bas des comptes rendus. C'est absolument fabuleux comme histoire.
Puis c'était la question que je voulais te poser tantôt. Ça risque d'être la dernière. Déjà, il est déjà 20h-5.
Ben oui.
Ça n'a pas de bon sens. Mais quand tu arrives en tant qu'enquêteur des phénomènes étranges et paranormaux, est-ce que c'est une ambiance de confrontation ou c'est plus la camaraderie? C'est quand tu arrives, tu dis, ouais, c'est un petit peu de la bullshit ce que tu me dis, là?
Ouais, c'est ça. Je dirais que...
T'es-tu déjà magasiné du trouble?
Non, je te dirais que de la part des autorités, ils trouvent ça à partir du moment où tu sais, ils voient que je prends ça un peu à la légère, il y a comme une espèce d'amusement. Je dirais que le sentiment est plutôt à la camaraderie et à l'amusement. Tu sais, il y a pas bon, OK, on va te le montrer, on va te sortir ça, puis ça les amuse un peu de voir que on est quand même dans un univers un peu marginal. Je me suis beaucoup amusé à faire ce type de recherche-là, et c'est ce que j'aime, hein. Puis encore une fois, c'est très important de préciser que ce livre-là est pas là pour dire aux gens les ovnis n'existent pas, les fantômes n'existent pas, il y a pas de vie après la mort. Ce livre-là ne dit pas ça. Ces sujets-là, je le sais pas, je n'ai pas les réponses. Mais à travers ces sujets-là, il y a des gens mal intentionnés qui les ont récupérés, qui ont inventé des histoires pour essayer de vous vendre des salades. Et c'est ça que ce livre dénonce.
Le prochain va porter sur quelles histoires? Là, t'es allé dans un répertoire où t'as mentionné la semaine dernière que c'était pas nécessairement celles qui étaient les plus populaires, dont on entendait le plus parler.
C'est ça. Mais il y a ce livre-là a peu d'histoires sur les fantômes. Hein.
Oh.
J'ai voulu aller tout azimut, et c'est sûr que dans un tome 2, il y a des histoires de fantômes qui ont été montées en épingle, des groupes de chasseurs de fantômes qui ont monté des histoires en épingle, qu'on pense par exemple aux gens qui sont derrière l'émission le Ghost Hunter, qui a été diffusée à Canal D, je crois, ou ouais, c'est Canal D ou Z Télé, je crois.
Mm-hmm.
En tout cas, ben, cette série-là qui a beaucoup fonctionné, ben, évidemment, du début à la fin, c'est une fraude, c'était scénarisé. Et ben, évidemment, ça pourrait faire partie de... Parce que je viens de te raconter cette petite anecdote. À un moment donné, j'étais dans la prison de Philadelphie, la vieille prison désaffectée de la prison de Philadelphie.
Wow.
Et je devais faire une entrevue avec une spécialiste de la criminologie, de la psychologie criminelle. Et Catherine Ramsland, pour ceux qui la connaissent. Donc, Catherine Ramsland devait participer à une émission des Ghost Hunters dans la même prison, elle me dit, on pourrait se donner rendez-vous. Fait que nous, on est dans une aile de la prison, je fais mon entrevue avec Catherine Ramsland, et à l'autre bout de la prison, dans l'autre aile, il y a le groupe de Ghost Hunters qui sont là, qui mènent une investigation, tu comprends?
Oui.
Et elle doit parler un peu de l'histoire des criminels qui sont en prison. Parfait. Fait que ça se passe bien. Je fais mon entrevue avec Catherine Ramsland et là, elle me dit, est-ce que tu veux venir avec moi voir comment ça se passe de l'autre côté? Évidemment, la curiosité de voir comment une équipe américaine travaille, bon. Alors, je la suis, je l'accompagne. Et là, à un moment donné, je suis de l'autre côté. Il y a les Ghost Hunters qui sont là. Et là, je les vois, ils mettent des cordes, faire tirer des portes, faire claquer des portes, faire tomber des objets.
Ah, ouais.
C'est quoi ça? Et le réalisateur de l'émission me dit, ben là, c'est pour faire fermer des portes, faire tomber des affaires. Je dis, ouais, mais là, quand j'ai regardé vos émissions, c'est jamais marqué reconstitution. Puis lui, il me répond, il dit, non, on veut pas non plus que ce soit des reconstitutions. Il me répond, il dit, des émissions avec des maisons pas hantées, on n'en veut pas.
Voilà.
T'sais, donc, on les crée, nos fantômes. Donc, quand vous voyez des émissions comme ça, là, Ghost Hunter, là, vous voyez la porte là, qui craque, puis la porte qui s'ouvre, qui s'entre, c'est monté, c'est des cordes. Je les ai vues.
Des bons acteurs qui font semblant. J'ai fait un saut.
Oui, c'est ça. Fait que ça pourrait faire l'objet d'un excellent deuxième tome pour les grandes fraudes du paranormal.
Mais t'en as déjà plein en préparation. Et celui-là est encore tout neuf, mais oui. Christian, dans les dernières pages, tu remercies tes collègues des médias pour les présences radio, télé, ceux qui écoutent aussi tes conférences, tes podcasts. On vient de me recommander une participation au podcast de Victoria Charlton, que je vais écouter assurément. Ça pique ma curiosité. Je savais pas que tu avais fait ça. Moi, je veux te remercier de me réitérer ta confiance à chaque semaine. Je me sens tellement privilégiée de pouvoir faire cette émission-là avec toi. Tu me fascines. Et merci pour le livre. Il y en a une copie pour les auditeurs. Je veux qu'au 418-670-9098, les gens nous écrivent leur thématique préférée, que nous, on décline en quatre grandes thématiques des X-Files. Et il y aura un gagnant du livre parmi les auditeurs qui auront texté. Christian, merci beaucoup. J'étais super nerveuse, finalement. Comme d'habitude, ça passe tellement vite avec toi. Merci et on se dit à vendredi prochain.
À vendredi prochain.
Bon Halloween en même temps.
Toi aussi. Ciao.
Bye-bye.